Le Créateur du monde vous poursuit sans relâche, vous et les personnes que vous aimez. Son amour est là. Cela n'a jamais disparu. Le chemin n'a jamais disparu. Vous pensiez juste que c'était le cas. Jésus-Christ est le vrai et meilleur Adam qui ne s'est pas caché de Dieu, mais qui a toujours fait la volonté de son Père. Je témoigne que vous n'êtes pas trop perdus pour être retrouvés. Vos proches ne sont pas trop loin pour rentrer à la maison. Au milieu du jardin se trouvait l'arbre de vie. Jésus-Christ s'est élevé sur l'arbre du milieu parce qu'il est l'arbre de vie. Lorsque nous ressentons profondément cela, nous pouvons nous reposer de nos inquiétudes. Quand j'étais enfant, j'adorais jouer à cache-cache et je me cachais normalement dans les endroits normaux, dans un placard, derrière une porte. Mais récemment, j'ai entendu parler d'un jeu de cache-cache qui était devenu un peu incontrôlable. Cela se passait au Bangladesh, près de certains quais d'expédition. Les garçons jouaient et un garçon est monté dans un conteneur d'expédition. C'était une formidable cachette, si grande que personne ne l'a trouvée. Malheureusement, il s'est endormi et le conteneur d'expédition a été chargé sur un navire et a atterri à 2000 milles de là, en Malaisie. Lorsque les dockers ont trouvé ce petit garçon déshydraté, j'espère qu'il a au moins triomphé car il a remporté le jeu de cache-cache le plus grand et le plus long du monde. Mais je suis presque sûre que ce n'est pas ce que sa mère voulait dire lorsqu'elle lui a dit « Va jouer dehors avec tes amis ». Je pense que dans nos vies, il y a peut-être une métaphore ici. Le garçon était à 2000 milles de sa trajectoire, mais il n'était pas trop perdu pour être retrouvé. Pour moi, c'est un message majeur que nous allons voir aujourd'hui alors que nous étudions Genèse 3 à 4 et Moïse 4 à 5. C'est vrai pour nous. C'est vrai pour nos proches. Peu importe à quelle distance nous sommes, nous ne sommes jamais trop perdus pour être retrouvés. En effet, comme l'a enseigné Patrick Kéharon, Dieu vous poursuit sans relâche. Aujourd'hui, nous serons avec Adam et Ève dans le jardin. Nous serons avec Caïn et Abel sur le terrain. Dans chacun de ces deux récits scripturaires, nous verrons quatre thèmes qui les traversent. Alors que nous examinons cette structure, je souhaite souligner Timothy Keller, qui a prêché une série de sermons sur ces sujets. Ces sermons m'ont été très utiles, à la fois dans l'organisation de cette structure et également dans certains contenus que je partagerai. Nous les appellerons le mensonge, la dissimulation, l'appel et la couverture. À travers chacun d'eux, nous verrons que quelles que soient les circonstances de notre vie ou celles des membres de notre famille, nous et eux ne sommes pas trop perdus pour être retrouvés. Commençons par le mensonge. Nous allons aller au jardin d'Éden. C'est le restaurant original à volonté. Vous pouvez avoir toutes les fraises, myrtilles, ananas, noix de coco que vous voulez. C'est encore mieux que le Golden Corral. Adam et Ève sont ici, et Dieu leur dit, « Vous êtes libres de manger de n'importe quel arbre du jardin, mais vous ne devez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car lorsque vous en mangerez, vous mourrez certainement. » Maintenant, remarquez que Dieu nous donne un très large éventail d'arbres dont vous pouvez manger. Vous pouvez manger de chaque arbre. Juste un. N'en mangez pas. Maintenant, regardez comment Satan déforme cela avec un mensonge. Il s'approche d'Ève et lui dit « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne deviez manger d'aucun arbre du jardin ?» En fait, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit « Vous pouvez manger de chaque friandise, mais ne mangez pas celle-là. » Mais Satan déforme cela. Je pense que c'est quelque chose d'important dont nous devons nous souvenir aujourd'hui. C'est que Satan non seulement ment, mais il se moque. Il s'intéresse au sarcasme, pas à la vérité. Il déforme ce que Dieu a dit pour donner l'impression que c'est quelque chose de très différent. Nous pourrions voir cela aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je vois un message. Il dit « Quoi ? Vous croyez vraiment à un livre traduit par des pierres magiques ? Aucune mention de témoins qui ont donné leur vie pour le livre de Mormon ? Aucune mention du pouvoir spirituel du livre de Mormon ? Aucun témoignage ou aucune mention des preuves intellectuelles du livre de Mormon ? Juste du ridicule, du sarcasme. C'est l'une des choses auxquelles nous devons être attentifs. Satan ne fait pas que mentir, il se moque. Il utilise le sarcasme pour écarter la vérité de Dieu. Ses mensonges continuent. Il dit, « Vous ne mourrez certainement pas si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien du mal. » Une partie de la stratégie de Satan consiste à donner l'impression que Dieu essaie de nous restreindre. Dieu nous donne un commandement puissant, comme la loi divine de chasteté, destinée à nous bénir et à nous protéger. Mais Satan viendra et dira, « Eh bien, tu peux coucher avec qui tu veux. Dieu, j'essaie juste de te retenir. Ou bien l'Église est riche. Il n'a pas besoin de votre argent. Vous ne devriez pas payer la dîme. Vous avez besoin de votre argent. » Ce sont toutes des manières aujourd'hui, et il y a beaucoup d'autres exemples que nous pourrions ajouter, où Satan fait la même chose qu'il fait à Ève ici. Il essaie de donner l'impression que les commandements de Dieu nous retiennent et ne nous amènent pas là où nous voulons être. Cela me rappelle le film pour enfants Pinocchio. Non, la fée bleue prévient Pinocchio. N'allez pas à Pleasure Island, mais Pleasure Island a l'air si amusante. Pinocchio se rend à Pleasure Island et apprend trop tard que ce n'était pas ce qu'il ressentait. Les mensonges de Satan sont réels aujourd'hui. Alors que nous examinons le livre de Moïse, il y a un petit détail que je souhaite souligner, et je veux juste reconnaître qu'il existe différentes manières de considérer ce verset. Lors de notre prochain cours, nous examinerons différents aspects de l'automne. Mais pour l'instant, dans le contexte des mensonges de Satan, jetez un œil au verset 12. Ève a vu que l'arbre était bon à manger et qu'il devenait agréable aux yeux. Pour moi, le mot est devenu la suggère que plus Ève regarde le fruit longtemps, plus il semble attrayant. Et réfléchissez à cela en termes de mensonges que raconte Satan. Pendant que je fais défiler ce fil de médias sociaux, est-ce que je m'attarde? Est-ce que je regarde les autres commentaires? Plus je reste dans les parages, plus je vois ces mensonges, ils commenceront à m'attirer. Et c'est peut-être pour cela que le président Nelson a dit « Ne polluez pas votre témoignage avec les fausses philosophies d'hommes et de femmes incroyants, pour ensuite vous demander pourquoi ils diminuent. Quand Satan vient avec un mensonge, nous devons sortir, parce que le mensonge nous mènera à nous cacher. » Et ce fut le cas pour Adam et Ève. Ils mangent le fruit défendu, ils réalisent « Oh non, nous sommes nus. » Ils cousèrent donc des feuilles de figuier ensemble et se confectionnèrent des couvertures. Maintenant, nous reviendrons sur ces revêtements dans un instant, mais pour l'instant, reconnaissons simplement que les feuilles de figuier ne seront pas un très bon revêtement. Alors l'homme et sa femme entendirent la voix du Seigneur Dieu alors qu'ils se promenaient dans le jardin, dans la fraîcheur du jour, et ils se cachèrent du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Maintenant, je pense que nous sommes tous passés par là. Nous avons tous fait quelque chose de mal. Nous nous faisons prendre. Nous nous sentons coupables. Nous essayons de nous cacher, mais cela ne suffit pas. Dieu vient nous chercher lorsque nous nous cachons. Dieu dit à Adam et Ève, « Avez-vous mangé de l'arbre dont je vous ai ordonné de ne pas manger ?» Remarquez la réponse d'Adam. Encore une fois, comme nous l'avons mentionné précédemment, je tiens à souligner que j'utilise la nouvelle version internationale, comme nous en avons parlé dans un cours précédent, car elle est écrite pour un niveau de lecture de 7e année. Étant donné que le manuel de l'Église nous permet de lire différentes traductions de la Bible et que l'adulte moyen aux États-Unis a du mal à lire au niveau de la 7e année, je pense simplement qu'il est utile pour nous d'utiliser cette édition pour notre classe aujourd'hui. Dieu a posé la question « As-tu mangé de l'arbre ?» Et remarquez la réponse d'Adam « La femme que vous avez mise ici avec moi, elle m'a donné du fruit de l'arbre, et je l'ai mangé. » En une phrase, Adam rejette la faute sur Dieu et sur Ève. Dieu se tourne vers Ève et elle dit « Eh bien, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Adam blâme Ève, Ève blâme le serpent. Pauvre Satan, il n'a plus personne à blâmer. Maintenant, encore une fois, je reconnais qu'il existe différentes manières de lire ces passages. Mais pour moi, l'une des idées intéressantes est que juste après la chute, le premier réflexe a été de commencer à rejeter la faute, à trouver des excuses, à justifier. Je pense que nous nous cachons du Seigneur de la même manière aujourd'hui en trouvant des excuses. Je me souviens d'un jour où un jeune missionnaire frappait aux portes, et une petite fille ouvre la porte, et mon compagnon et moi disons « Salut, est-ce que ta mère est à la maison ?» La petite fille, elle a probablement environ 4 ans, a-t-elle dit. Ma mère m'a dit de te dire qu'elle n'est pas à la maison en ce moment. J'ai dit, oh, d'accord, tu pourrais aller demander à ta mère quand elle rentrera à la maison. Alors la petite fille s'est retournée et a crié à l'étage. Eh, maman, quand rentres-tu à la maison? Maintenant, je ne peux pas me moquer de la maman ou de la petite fille parce que je fais les mêmes choses qu'eux. La maman se cachait derrière une excuse. Est-ce qu'on fait parfois la même chose? Nous disons des choses comme, je ne peux pas. J'ai dois. Elle m'a fait. Justifier. Rationaliser derrière des excuses. L'une des excuses les plus courantes derrière lesquelles nous nous cachons est peut-être que je suis trop occupée. Je sais que je devrais aller au temple. Je sais que je devrais lire mes écritures ou faire d'autres choses, c'est une bonne chose. Mais je suis trop occupée. Ou alors j'ai trop occupé mes enfants en leur imposant des activités. Peut-être qu'une autre façon pour nous de nous cacher est d'utiliser des distractions sans fin qui m'éloignent de l'appel de Dieu. Mais quels que soient les mensonges, peu importe où je me cache, Dieu appelle toujours. J'aime la toute première question que Dieu pose dans toute la Bible. C'est « Où es-tu ?» Même si Adam et Ève avaient mal agi, même s'ils se cachaient, Dieu les appelait quand même. « Où es-tu ?» J'aime le fait que la toute première réponse de Dieu au péché n'a pas été une punition. C'était une quête parce qu'il est un parent aimant, et c'est ce que font les parents aimants. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, à cette époque, ma femme et moi, nous venions d'avoir 2 enfants. Notre aîné était Lévi. Il avait 2 ans. Notre deuxième enfant, Anne-Marie, n'avait que quelques mois. Nous avons emballé un U-Haul et avons déménagé de l'Oregon au Massachusetts. Et quelque part le long de la I-80, nous nous sommes arrêtés dans un magasin Cabla. Je ne sais pas si tu es déjà allé chez Cabla. C'était un géant. Il y avait des tonnes d'animaux empaillés. C'était un magasin vraiment amusant jusqu'à ce que nous réalisions que Lévi avait disparu. Alors nous avons regardé autour de nous, partout, mais nous ne l'avons pas trouvé. J'ai commencé à paniquer. Et s'il avait été kidnappé? Et puis, bien sûr, nous l'avons trouvé. Quand ma femme est allée lui faire un câlin géant, j'ai réalisé que c'était ce con. Lorsque vous perdez un enfant, Vous n'arrêtez pas de chercher et vous vous réjouissez lorsque l'enfant est retrouvé. C'est exactement ce que Dieu a fait ici avec Adam et Ève. Vous n'êtes pas non plus, comme Adam et Ève, trop perdus pour être retrouvés, et vos proches non plus. Nous avons parlé des principes liés au mensonge, à la dissimulation et à l'appel. Nous avons vu comment Satan utilise le sarcasme et la tromperie, nous incitant à nous cacher de Dieu, mais Dieu continue de nous appeler. Comment avez-vous vu un ou plusieurs de ces principes dans votre vie? J'ai aimé être occupé parce que c'est ce que je vois dans ma vie en ce moment. Mais je ne me cache pas seulement à l'intérieur. Cela n'apparaît pas de manière visible dans ma vie parce que je me cache dans les bonnes choses de ma vie au lieu des meilleures et des meilleures. Et donc je me distrais en disant, c'est quelque chose de bien, et je peux passer mon temps avec de bonnes choses, mais je passe à côté du meilleur et du meilleur en me cachant de ces choses. Laissez-moi simplement vous demander. Je pense que nos ancêtres seraient étonnés s'ils découvraient que nous disposions de ces appareils permettant de gagner du temps et capables de laver les vêtements en si peu de temps. Nous avons donc reçu ce cadeau de tonnes de temps libre supplémentaire, mais nous l'utilisons désormais pour le bien et non, comme vous l'avez dit, pour le mieux, pour le meilleur. Comment puis-je récupérer une partie de ce nouveau temps que les inventions modernes m'ont donné et l'utiliser au mieux? Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité et être capable de réaliser. D'accord, le bien n'est pas suffisant lorsqu'il s'agit de l'œuvre du Seigneur et de trouver des moyens de servir les autres. Et si Dieu nous poursuit, nous devons aussi poursuivre les autres. Alors, comment pouvons-nous rechercher activement les autres, plutôt que de simplement consacrer notre temps à de bonnes choses? Pouvez-vous nous raconter une histoire de votre vie, où vous avez l'impression d'avoir réussi à donner la priorité aux premières choses, ou peut-être où vous vous dites, « Non, j'ai totalement échoué. » Mais juste pour aider à le rendre réel. Absolument. Alors cette semaine encore, je suis enseignant et je me sens très en retard. J'ai donc passé mon temps à l'école de 20h à 22h, 8h du matin et 22h le soir, juste pour préparer ce que je pense être bon pour mes élèves. Et plusieurs fois, des amis m'ont contacté, et « Tu veux aller au temple avec moi cette semaine ?» Et « Nous allons faire cette activité où nous avons besoin d'aide pour cela, en ce qui concerne ma vocation. » Et j'ai utilisé une excuse pour dire « Oh, je dois faire ces bonnes choses pour mes élèves et passer à côté de moyens de servir les gens autour de moi. » Et à la seconde où j'ai pris un moment pour aller au temple avec un ami, j'ai réalisé « D'accord, il y a certaines choses qui sont plus importantes qu'un plan de cours parfait pendant un mois. Mais les relations et les personnes avec qui je côtoie actuellement sont tout aussi importantes, sinon plus. Merci. » Quelqu'un d'autre se sent-il à l'aise pour partager comment vous avez vu ces principes? Je pense que le mien se cachait. Quand j'étais adolescente, je n'ai pas grandi dans un foyer aimant et j'ai fait beaucoup de choix que je n'aurais pas dû faire. Et donc j'avais l'impression de m'être trop éloignée du chemin, que cela ne servait à rien. Mais j'ai continué à aller à l'église parce que c'est exactement ce qu'on fait. Grâce aux alliances que j'ai vues les membres de ma paroisse respecter, ils ont continué à m'aimer et ils ont gardé le serment. Me donner. À un moment donné, cela m'a donné envie d'être meilleure, de faire mieux et de faire partie de ma paroisse. Et j'ai reçu des appels que je n'aurais jamais cru recevoir. J'ai trouvé une joie et un bonheur que je n'aurais jamais pensé avoir. Je me sens aussi très libre. Il y a beaucoup de choses dont je ne me soucie. Plus comme avant. Je suis super reconnaissant. Et si vous parliez en ce moment à quelqu'un qui se cache, que lui dirais-tu? Je dirais que le chemin, on ne s'en éloigne pas à 100 pas. Une fois que vous êtes hors du chemin, vous pouvez simplement remettre votre bras ou votre main, et c'est là. C'est là. Son amour est là. Cela n'a jamais disparu. Le chemin n'a jamais disparu. Vous pensiez juste que c'était le cas. Regardez ceux qui vous entourent et demandez de l'aide. Ou regardez simplement ceux qui vous entourent qui sont de bons exemples. Lisez également les Écritures. Cela a été énorme pour moi. J'ai consacré les 2 dernières années à apprendre les Écritures, et cela m'a apporté tellement de bonheur, et l'Esprit m'a vraiment témoigné qu'elles sont réelles. Merci. Waze. Nous avons été témoins de mensonges, de dissimulation, d'appel. Voyons maintenant le revêtement. Nous avons mentionné plus tôt à propos des feuilles de figuier, que c'était un revêtement vraiment insuffisant. En fait, je n'ai jamais essayé de coudre une tenue avec des feuilles de figuier, mais j'imagine que seules, elles ne sont pas très bonnes. De plus, toutes les feuilles se désintègrent. Avez-vous déjà pensé à quel point il serait inconfortable de porter des feuilles de figuier qui se désintègrent? Vous devez confectionner une nouvelle tenue tous les jours ou deux. De plus, j'ai récemment appris que les feuilles de figuier contiennent en fait un peu de poison. Vous allez donc également avoir une éruption cutanée. Mais tout comme Adam et Ève se couvrent de feuilles de figuier, je pense que parfois, métaphoriquement parlant, nous nous couvrons de feuilles de figuier. Nous avons tous des insécurités, peut-être concernant notre apparence, notre santé, la taille de notre cuisine, le type de voiture que nous conduisons, ou tant de choses différentes pour lesquelles nous pourrions nous sentir insécurisés et essayer de nous couvrir, métaphoriquement. Je fais ça depuis des années. Je me souviens que j'avais déjà 15 ans, marchant dans le couloir, et l'une de mes plus grandes craintes était que je reconnaisse quelqu'un et qu'il ne me réponde pas. Je garderais juste la tête baissée, genre, continue de marcher. Marchez simplement. Ne regarde personne. C'était une pathétique feuille de vigne. Cela n'a trompé personne. Je ne me suis pas trompée. Et ce qui fait vraiment mal, ce que j'aimerais pouvoir dire à cette version de moi-même âgée de 15 ans, c'est qu'elle n'avait pas réellement besoin de feuilles de figuier parce que Dieu m'avait fait une meilleure couverture, tout comme il a fait avec Adam et Ève. Nous lisons. Le Seigneur Dieu a confectionné des vêtements de peau pour Adam et sa femme et les a vêtus. Je peux porter 100 feuilles de figuier pour essayer de paraître plus intelligent, d'être en meilleure santé, de réussir davantage ou d'avoir meilleure apparence, mais elles ne me couvrent pas vraiment. Si, au contraire, je peux trouver la sécurité dans la couverture que Dieu fournit, c'est un morceau qui ne disparaîtra jamais. Un message que je retiens vraiment de la couverture est que vous n'avez pas besoin de feuilles de figuier lorsque vous avez une couche de peau. Même s'il faut bien sûr reconnaître que cette couche de peau avait un coût. Pour la première fois dans l'histoire, le sang a coulé. Un animal est sacrifié pour qu'Adam et Ève puissent avoir ce manteau de peau. Dans le manteau de peau que Dieu nous donne, nous voyons Jésus-Christ. Pour les saints des derniers jours d'été, je pense que c'est un symbole que nous portons quotidiennement. En tant que saints des derniers jours d'été, c'est un symbole que nous portons quotidiennement. J'adore cet article du Liaona. Il est dit qu'Adam et Ève ont conclu des alliances avec Dieu et ont reçu des manteaux de peau confectionnés par Dieu lui-même pour leur rappeler ces alliances. Lorsque nous allons au temple, nous sommes dotés de pouvoir et contractons personnellement des alliances avec Dieu. Le vêtement est un emblème de la protection qu'Adam et Ève ont reçue et que nous recevons, et rappelle ces alliances sacrées. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais ces dernières années, il semble qu'il soit devenu de plus en plus courant, même en conférence générale, de parler des bénédictions du vêtement. J'aime ce que Sœur J. Annette Denny a enseigné récemment. Elle a dit « Je suis très reconnaissante d'avoir le privilège de porter les vêtements de la Sainte Prêtrise pour me rappeler que le Sauveur et les bénédictions de son expiation infinie me couvrent constamment tout au long de mon voyage dans la condition mortelle. Reconnaissons-nous vraiment la signification du vêtement du Temple, ce qu'il représente ? J'ai parlé à beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais dotée depuis des années avant de vraiment comprendre ce que cela signifiait. Mais maintenant, le président Nelson H. comme je l'ai dit très clairement. Il a dit « Le vêtement de la Sainte Prêtrise nous rappelle le voile du Temple, et ce voile est le symbole de Jésus-Christ. Lorsque vous enfilez votre vêtement, vous revêtez un symbole sacré de Jésus-Christ. Pourquoi voudrais-je me couvrir de feuilles de figuier alors que j'ai le manteau de peau ? Mais j'ai parlé à des gens, et vous avez probablement parlé à des gens aussi, et peut-être qu'il s'agit d'une lutte interne. Certains d'entre nous ont pensé qu'il y avait peut-être quelque chose dans le vêtement du Temple qui me faisait dire « Oh, je ne veux pas le porter aujourd'hui pour telle ou telle raison. » Parfois, nous avons l'impression de rencontrer des gens qui pensent que le vêtement du Temple peut être plus un inconvénient qu'une bénédiction. Mais j'aime ce que le président Hollande a enseigné. Il a dit « Pourquoi chercherions-nous une excuse pour retirer ce symbole ? Pourquoi nous priverions-nous de la promesse de pouvoir, de protection et de miséricorde que représente le vêtement ? Au contraire, chaque fois que nous devons retirer temporairement le vêtement, nous devrions avoir hâte de le remettre le plus tôt possible, car nous nous souvenons à la fois des promesses et des périls qui donnent un sens à nos alliances. Nous nous souvenons surtout de la croix et du tombeau vide du Christ. Grâce à cette couverture de l'expiation du Sauveur, nous avons une si grande paix. Maintenant, juste pour être clair, être couvert par Dieu ne signifiait pas que la vie allait être facile pour Adam et Ève. Lors de notre prochain cours, nous parlerons davantage de la chute et de ses conséquences. Mais pour l'instant, quittons le jardin et partons avec Adam et Ève et réfléchissons à combien cela a dû être difficile pour Adam et Ève. Un jour, ils traînent avec le Seigneur, parlent face à face, grignotent des aliments bio avant que le bio ne soit cool. Maintenant, ils vivent dans un monde où la vie est dure. Dans les premiers versets de Moïse 5, ils nous donnent un aperçu de la vie d'Adam et Ève après la chute. C'est beau. Ils ont travaillé ensemble, ils ont prié ensemble, ils ont fait confiance au Seigneur ensemble et ils ont respecté ses commandements. Ils ont élevé une famille. Cela n'était pas facile, surtout quand, au moins pour certains commandements, ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient reçu ce commandement. Dans Moïse 5, nous lisons, Dieu a donné à Adam et Ève le commandement d'adorer le Seigneur leur Dieu et d'offrir les premiers-nés de leurs troupeaux en offrande au Seigneur. Et Adam obéissait au commandement du Seigneur. Et après plusieurs jours, un ange du Seigneur apparut à Adam et lui dit, Pourquoi offres-tu des sacrifices au Seigneur ? Et Adam lui dit, Je ne sais que si le Seigneur me l'a ordonné. Maintenant, laissez vraiment cela pénétrer. Je pense que vous et moi, nous savons pourquoi Dieu commande cela, alors nous nous disons simplement, oui, nous voulons passer sous silence cela. Mais pensez à ce que cela aurait pu signifier pour Adam et Ève de tuer l'un de leurs animaux. Je ne voudrais absolument pas tuer un animal sous aucun prétexte. Pour Adam et Ève, c'était aussi leur gagne-pain. Ont-ils déjà pensé, et si nous manquions, et si nous avions vraiment besoin de cet animal ? C'était un énorme sacrifice qu'ils faisaient, et ils n'en savaient même pas la raison. Apportons cela à notre époque. À quel moment de votre vie avez-vous obéi pendant plusieurs jours sans en connaître la raison ? Nous pourrions également demander, avez-vous découvert la raison ? Peut-être que certains d'entre vous ont une belle histoire de vie où ils ont obéi, et maintenant ils savent pourquoi. Peut-être que certains d'entre vous se situent au milieu. Vous obéissez en ce moment, et vous ne savez toujours pas. L'un d'entre vous se sentirait-il à l'aise pour nous raconter une expérience de sa vie ? Comment avez-vous vu ce principe d'obéissance même si vous ne savez pas pourquoi ? Je revenais à mon appartement quand j'étais étudiant à BYU, puis j'ai reçu une révélation selon laquelle Dieu m'a dit que je devais déménager dans un complexe d'appartements complètement différent. Et j'ai eu le cœur complètement brisé parce que j'aimais ma paroisse, j'aimais mon évêque, j'aimais tous mes voisins, tous les gens de ma paroisse, et j'aimais absolument ma paroisse. Mais il a dit, dans un an, vous devrez déménager et commencer à chercher un nouvel endroit. Et j'en ai eu le cœur brisé. Alors je me suis dit, d'accord. J'ai donc commencé à chercher des endroits, et aucun des endroits ne me semblait bien jusqu'à ce que je voie ce complexe d'appartements, et ce n'était pas le meilleur complexe d'appartements dans lequel j'ai jamais vécu. Mais je me suis dit, eh bien, je pense que Dieu veut que je sois ici. J'ai donc déménagé des mois plus tard. J'ai finalement rencontré mon mari dans ce complexe d'appartements de cette salle. J'adore cette histoire. Et j'aime le fait que, au moins dans ce cas, tu avais une raison assez claire pour laquelle tu déménageais. Des sept directions. Quelqu'un d'autre veut-il partager avant d'aller de l'avant ? Pour moi, c'est le pardon. Dieu nous le commande. Il nous commande de pardonner à tout le monde. Et il dit qu'il pardonnera à qui il pardonnera. Mais pour nous, il dit qu'il nous a ordonné de pardonner à tout le monde. Il est facile que cela n'ait aucun sens. Et c'est facile d'essayer de s'habiller de feuilles de figuier. De la colère, de la frustration, et ça ne fait rien. Selon vous, quelle est la raison pour laquelle Dieu vous demande de pardonner à quelqu'un qui vous a fait un tort profond ? C'est si difficile de pardonner. Pourquoi Dieu vous demande-t-il de faire cela ? C'est lui qui nous l'enlève, et je pense qu'il veut que nous comptions davantage sur lui. Il y a des choses que les gens nous font qui pourraient être horribles, n'est-ce pas ? Je veux dire, il n'y a rien que vous puissiez faire pour les punir. J'ai l'impression qu'il veut que nous comprenions que c'est lui qui peut. Il a déjà payé pour cela, littéralement. S'y attarder, cela n'a aucun sens. Je pense que c'est un personnage. Cela construit votre caractère. Cela vous aide à devenir plus divin. Cela vous aide à devenir plus pieux. Je suis juste touchée. Merci. Merci à tous ceux qui partagent. Je me souviens d'avoir récemment discuté avec une femme et elle a senti le Seigneur l'inspirer à transformer son garage en chambre. Sérieusement. Je pense. Et si Dieu vous donnait cette incitation ? C'est fou. Cela a pris énormément de temps. Cela a pris une tonne d'argent. Elle pensait que c'était fou, mais elle l'a fait. Son garage est maintenant une chambre. À ce jour, elle ne sait toujours pas pourquoi on lui a demandé de faire cela. Parfois, nous n'avons pas tout soigneusement attaché dans un arc. J'ai eu envie de déménager dans un nouveau complexe d'appartements et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Cela ne se passe pas toujours comme ça. Mais je témoigne que ce soit dans cette vie ou dans la suivante, nous saurons pourquoi Dieu nous donne des commandements. Lorsque nous pouvons rechercher le pourquoi de cette vie, cela peut être utile. Parfois, les questions sur le pourquoi sont sans réponse et ne sont pas utiles, mais parfois elles le sont. Je pense que dans le cas d'Adam et Ève, alors qu'ils se demandent « Pourquoi faisons-nous cela ?» Cela a dû totalement changer notre perspective lorsque l'ange leur a dit « Ce sacrifice est en similitude avec le sacrifice du Fils unique de Dieu. » Quand ils ont compris pourquoi, tout a cliqué. Dans nos propres vies, peut-être nous sentons-nous poussés à changer de spécialisation à l'université, sans vraiment savoir exactement pourquoi, et donc les choses ne s'enchaînent pas pendant un certain temps. Mais que ce soit dans cette vie ou dans la suivante, nous saurons pourquoi les choses vont se déclencher. Dans le cas d'Adam et Ève, pensez à la façon dont, dès le début, le sacrifice a désigné Jésus-Christ. Chaque fois qu'Adam et Ève mettaient un agneau sur l'autel, c'était le rappel d'un plus grand agneau qui viendrait offrir un sacrifice. Je suis tellement reconnaissante qu'aujourd'hui nous n'ayons plus à sacrifier d'animaux. Je pense cependant que ce que le Sauveur a dit entre sa mort et sa résurrection est intéressant. Il parla aux Néphites et dit « Vous ne m'offrirez plus d'effusion de sang, car je n'accepterai aucun de vos sacrifices ni vos holocaustes, et vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit. Le sacrifice est donc encore nécessaire. Peut-être que c'est ma fierté que je dois sacrifier, ou peut-être que c'est une application ou une émission de télévision que je dois déposer sur l'autel. Mais chaque fois que nous déposons quelque chose sur l'autel, même si nous ne savons pas pourquoi, nous faisons un sacrifice. Nous désignons Jésus-Christ et son grand et éternel sacrifice. Nous étions avec Adam et Ève dans le jardin. Ils avaient confiance, ils se sont sacrifiés, même s'ils ne savaient pas pourquoi. Mais dans la prochaine génération, nous allons assister à des sacrifices supplémentaires de la part de Caïn et d'Abel, certains se révélant meilleurs que d'autres. En allant sur le terrain avec Caïn et Abel, nous verrons encore une fois les thèmes du mensonge, de la dissimulation, de l'appel et de la couverture. Mais d'abord, il y a une petite énigme. Il y a un verset de la Genèse sur lequel les commentateurs de la Bible se demandent depuis des années. Jetons un coup d'œil. Genèse 4, Abel gardait des troupeaux, et Caïn travaillait la terre. Au fil du temps, Caïn apporta quelques fruits du sol en offrande au Seigneur. Et Abel apporta également en offrande des portions de graisse provenant des premiers-nés de son troupeau. Le Seigneur a regardé avec faveur Abel et son offrande. Mais il n'a pas regardé avec faveur Caïn et son offrande. Caïn était donc très en colère et son visage était abattu. Si tout ce que nous avions était le livre de la Genèse, la raison pour laquelle Dieu ne respecte pas l'offrande de Caïn n'est pas claire à 100%. C'est donc l'énigme que les commentateurs bibliques ont tenté de résoudre. Certaines personnes m'ont regardé et il a dit, « D'accord, eh bien, peut-être que Caïn apporte quelques fruits et Abel apporte les prémices. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de qualitativement meilleur dans ce que fait Abel. » Mais d'autres résistent. Ils ont dit, « Eh bien, regardez, Caïn travaille la terre. Il fait le sacrifice de ce qu'il peut faire. Et peut-être que cela fait partie de la difficulté. Peut-être que Caïn se dit, « Je vais juste faire ce que je peux. Je ne vais pas faire ce que Dieu veut que je fasse. Je ferai juste ce que je peux. » Il vise le trophée de la participation, pourrait-on dire. Mais je pense qu'il y a ici une leçon à tirer. Lorsque nous essayons d'approcher Dieu selon nos conditions plutôt que selon ses conditions, nous n'adorons pas vraiment Dieu. Nous nous adorons. D'autres commentateurs de la Bible se tourneront vers le Nouveau Testament. Il y a un passage dans le livre des Hébreux où il est dit « Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. » Il y a ici quelque chose de qualitativement différent dans le sacrifice. Nous sommes vraiment chanceux, dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, de disposer d'écritures supplémentaires. Le livre de Moïse, qui fait partie de la traduction de ces chapitres par Joseph Smith, explique très clairement pourquoi Dieu n'a pas respecté l'offrande de Caïn. Les toutes premières paroles que nous entendons prononcer Caïn sont « Qui est le Seigneur pour que je le connaisse ?» Cela nous dit quelque chose sur son caractère. En revanche, nous lisons qu'Abel a écouté la voix du Seigneur. Maintenant, ce qui le montre vraiment clairement, c'est Moïse 5, 18, « Caïn aimait Satan plus que Dieu, et Satan lui ordonna de dire, « Faites une offrande au Seigneur. » Caïn n'a donc pas fait d'offrande au Seigneur parce qu'il aimait Dieu. Il l'a fait parce que Satan le lui avait dit. Maintenant, je suppose que personne dans cette pièce ne fait d'offrande au Seigneur parce que Satan vous l'a dit. Si c'est un problème dans votre vie, vous devez faire un grand changement. Mais cela me rappelle que nous devrons peut-être vérifier nos motivations. Il est préférable de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons, mais peut-être que certains d'entre nous font les bonnes choses pour les mauvaises raisons. Lorsqu'il s'agit de vérifier nos motivations, est-ce que j'ai bien fait de simplement cocher une case, juste de dire que je l'ai fait? Est-ce que je fais la bonne chose? Peut-être que je réponds à mon appel parce que je veux impressionner mes voisins plutôt que parce que j'aime vraiment le Seigneur. Satan tente Caïn de faire la bonne chose, mais pour la mauvaise raison. Pourtant, Dieu n'abandonne pas Caïn. Il dit, « Si tu fais le bien, ne seras-tu pas accepté ?» Et cela nous amène au mensonge. Tout comme nous l'avons vu dans le jardin, Satan vient mentir et dit à Caïn, « Aujourd'hui, je vais livrer ton frère Abel entre tes mains. » Satan a promis à Caïn, ceci est un aperçu supplémentaire du livre de Mormon, Satan a promis à Caïn que s'il assassinait son frère Abel, cela ne serait pas connu du monde. Pensez à quel gros mensonge c'était. Existe-t-il dans toute l'histoire du monde un meurtre plus connu que celui de Caïn tuant Abel? Satan nous donne les mêmes mensonges aujourd'hui. Faites simplement cette mauvaise chose, personne ne le saura. Et cela nous amène à la cachette. Une fois que Caïn a tué son frère, il doit cacher ce qu'il a fait. Mais j'aime cette idée de Richard G. Scott. Il dit que Satan s'efforce de convaincre les uns que les péchés peuvent être cachés aux autres. C'est pourtant lui qui les fait révéler dans les circonstances les plus compromettantes. Après avoir tué son frère, Caïn s'écrie ironiquement « Je suis libre », alors qu'il n'a jamais été aussi captif. Et bien sûr, nous arrivons à l'appel. Même après ce que Caïn a fait, Dieu continue de l'appeler. Et il dit « Où est Abel, ton frère ?» La réponse de Caïn est l'une des questions les plus célèbres de toutes les Écritures. Il dit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Il y a probablement une raison à cela, n'est-ce pas? » Caïn pense, « Écoutez, je n'ai pas de libre arbitre. Mon frère, il peut faire ce qu'il veut. C'est vrai qu'à un certain niveau, notre frère ou notre sœur ont leur propre agence. Mais remarquez ce que le président Hawkes a enseigné. Sommes-nous les gardiens de notre frère? En d'autres termes, sommes-nous responsables de veiller au bien-être de nos voisins alors que nous cherchons à gagner notre pain quotidien? La règle d'or du sauveur dit que c'est le cas. Revenons à cette question. Où est ton frère? Où est ta sœur? Dieu pourrait-il nous poser cette question aujourd'hui? C'est peut-être un d'eux. Mes frères et sœurs que je dois contacter. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un dans mon quartier ou dans ma communauté de paroisse. Ou peut-être que c'est juste l'un des moindres que je vois dans la rue. Mais tout comme Dieu poursuit sans relâche chacun de nous, il est sans relâche à la poursuite de chacun de nous. Ursuisant tous ses enfants. Peut-être qu'il nous invite à en faire partie. Il nous dit, où est ton frère? Caïn est l'anti-réponse, n'est-ce pas? Où est ton frère? Récemment, j'ai appris l'histoire de Maximilian Kolbe, qui est tout le contraire de Caïn. Il était prêtre en Pologne, un vaillant missionnaire, partageant l'évangile partout où il le pouvait. Lorsque les nazis ont envahi la Pologne, il a aidé des milliers de juifs à devenir libres. Finalement, Maximilien fut capturé et envoyé dans un camp de concentration. Dans le camp de concentration où était détenu Maximilien, un prisonnier s'est évadé. Ainsi, en guise de punition, les nazis ont sélectionné au hasard 10 prisonniers à exécuter en guise de punition pour le prisonnier qui s'était évadé. Maximilien n'a pas été choisi au hasard. Alors que les 10 hommes choisis au hasard partaient, l'un d'eux s'est écrié « J'ai un enfant. J'ai une femme. » Maximilien dit « Tu sais quoi ? Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de femme. Je prendrai ta place. » Maximilien a littéralement donné sa vie pour un étranger car il était en réalité le gardien de son frère. D'ailleurs, celui qui l'a remplacé a vécu encore 50 ans et aimait témoigner de la puissance du sacrifice de Maximilien Kolbe, ce qui, bien sûr, renvoie au sacrifice du Sauveur. Je n'essaie certainement pas de suggérer que nous devons aller à cet extrême pour être le gardien d'un frère, mais nous sommes le frère de notre frère. Si seulement nous entendons le Seigneur nous poser la question « Où est ton frère ? » Que ressentons-nous ? Maintenant, même après tout ce que Caïn a fait, le Seigneur continue de crier. « Que as-tu fait ? La voix du sang de ton frère me crie depuis le sol. » On pourrait penser que c'est la fin pour Caïn, mais il y a encore une couverture. Maintenant, Caïn est vraiment désemparé, non pas parce qu'il se sent mal à cause de ce qu'il a fait à Abel. Il s'inquiète de ce qui va lui arriver, du fait que d'autres voudront se venger de lui parce qu'il a tué son frère. Caïn dit « Je serai un fugitif et un vagabond sur la terre. Il arrivera que celui qui me trouvera me tuera à cause de mes iniquités. » Dans le verset suivant que nous lisons « Et cela arriva, le Seigneur dit « Oui, quelqu'un va probablement vous tuer, et cela vous fera du bien. » Ce n'est en fait pas ce que dit le verset. Ne cherchez pas ce verset. Ce n'est pas ce que dit le verset. C'est probablement ce que j'aurais dit. En fait, ce que fait le Seigneur, c'est qu'il met une marque, ou nous pourrions dire une couverture, sur Caïn, de peur que quiconque le trouverait ne le tue. Il existe donc toujours une couverture miséricordieuse pour protéger Caïn, même après tout ce qu'il a fait. Pouvez-vous voir les parallèles entre ces histoires ? Satan ment, les gens se cachent, mais Dieu continue à appeler et à couvrir. Le lien avec ces histoires est la bénédiction que nous avons. Il existe un plus grand Adam, un plus grand Abel et un plus grand gardien. Jésus-Christ est le vrai et meilleur Adam qui ne s'est pas caché de Dieu, mais qui a toujours fait la volonté de son Père. Il est le vrai et meilleur Abel, dont le sang crie du sol, non pas pour se venger, mais pour nous couvrir de miséricorde. Et Jésus-Christ est le véritable et meilleur gardien. Là où Caïn a pris la vie, Jésus a donné la sienne et il nous poursuit sans relâche. Je témoigne que vous n'êtes pas trop perdus pour être retrouvés. Vos proches ne sont pas trop loin pour rentrer à la maison. Le Dieu qui nous a appelés dans le jardin nous appelle encore aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que tout sera facile. Parfois, nous allons certainement nous sentir dépassés. Mais il y a un détail du jardin. Vous souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit à Satan ? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Il vous écrasera la tête et vous lui frapperez le talon. Dans ce passage, la descendance de la femme fait clairement référence à Jésus-Christ, la descendance de Marie. Nous pouvons voir, dans un certain sens, Satan frapper les talons du Sauveur sur la croix. Quand nous pensons à Jésus-Christ crucifié dans les clous de ses pieds, nous les imaginons probablement passant par le dessus de ses pieds. Mais en réalité, des recherches modernes suggèrent que les ongles traversaient les côtés des pieds par les talons. En un sens, sur la croix, nous pouvons voir Satan frapper le talon du Sauveur. Mais sur la croix, Jésus-Christ écrase la tête de Satan. L'auteur du livre des Hébreux dit, « Jésus, par la mort, a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. C'est le diable. » Nous nous souvenons que Jésus-Christ s'est levé sur la croix du milieu. Il a été crucifié entre deux voleurs. Il y a cependant un détail subtil du jardin que nous avons peut-être oublié. Au milieu du gard, la tanière était l'arbre de vie. Jésus-Christ s'est élevé sur l'arbre du milieu parce qu'il est l'arbre de vie. J'adore ce tableau du docteur Anthony Sweat, où l'on peut voir le Sauveur représenté comme cet arbre de vie. Le docteur Sweat dit « À mon image, le Christ est ressuscité dans la gloire et le triomphe. Ses bras sont tendus pour accueillir l'amour, et non la mort douloureuse. Sa tête porte une couronne de laurier en signe de triomphe plutôt que des épines cruelles. Au lieu de clous dans ses mains, il tient le fruit de l'arbre de vie, l'offrant à tous ceux qui veulent participer à son salut. Les blessures dans ses mains, son côté et ses pieds sont encore visibles, nous invitant tous à venir à lui. J'espère qu'en explorant ces récits bibliques aujourd'hui, nous avons vraiment ressenti profondément dans nos cœurs que Dieu continue d'appeler et que Dieu continue de nous couvrir. Parce que lorsque nous ressentons profondément cela, nous pouvons nous reposer de nos inquiétudes. Cela est vrai même si vous vous cachez depuis longtemps, même si votre cachette était aussi bonne que celle de cet enfant dans le conteneur d'expédition. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous ou vos enfants avez fait, vous avez de l'espoir. Dieu lui-même, le Créateur du monde, vous poursuit sans relâche, vous et les personnes que vous aimez. Vous et eux n'êtes pas trop perdus pour être retrouvés.